Hubertin lui serra les mains et ses yeux se voilèrent encore de larmes.
« Ne dis pas cela, Guillaume. Comment peux-tu confondre le moment de l'amour extatique qui brûle tes entrailles avec le parfum de l'encens et le dérèglement des sens qui sent le soufre ? Bentivenga incitait à toucher les membres nus d'un corps. Il affirmait qu'ainsi seulement on obtient la libération de l'empire des sens. Homo nudus cum nuda jacebat.
Et non comiscebantur ad inwicem.
Mensonge ! Il cherchait le plaisir. Si l'aiguillon charnel se faisait sentir, il ne considérait pas comme péché que pour l'émousser, homme et femme couchassent ensemble, et que l'un touchât et baisa l'autre de partout, et que celui-là unit son ventre nu au ventre nu de celle-là. »
J'avoue que la manière dont Hubertin stigmatisait le vice chez les autres ne m'induisait pas à des pensées vertueuses. Mon maître dut s'apercevoir de mon trouble, et il interrompit le saint homme. « Tu es un esprit ardent, Hubertin, dans l'amour de Dieu comme dans la haine contre le mal. Ce que je voulais dire, c'est qu'il y a peu de différence entre l'ardeur des séraphins et l'ardeur de Lucifer, parce qu'ils naissent toujours d'un transport extrême de la volonté.
« Oh, il y a une différence et j'en sais quelque chose !» dit Hubertin inspiré. « Tu veux dire qu'entre vouloir le bien et vouloir le mal, il n'y a qu'un pas, parce qu'il s'agit toujours de diriger la même volonté, cela est vrai. Mais la différence se trouve dans l'objet, et l'objet est nettement reconnaissable, d'un côté Dieu, d'un autre côté le diable. »
Et moi je crains de ne plus savoir distinguer, Hubertin. N'est-ce pas ton Angèle de Foligno qui fit le récit du jour où, ravie en esprit, elle passa un certain temps dans le sépulcre de Christ ? Ne dit-elle pas comment d'abord elle lui baisa la poitrine et le vit gisant, les yeux clos, qu'ensuite elle baisa sa bouche et sentit s'exhaler de ses lèvres une indicible odeur pleine de douceur, et qu'après une courte pause, elle posa sa joue sur la joue de Christ et le Christ approcha sa main de sa joue à elle et la serra à lui et, ainsi s'exprima-t-elle, et son bonheur fut à son comble.
« Quel rapport avec le transport des sens ?» demanda Hubertin. Ce fut une expérience mystique, et le corps était celui de notre Seigneur.
Sans doute me suis-je habitué à Oxford, dit Guillaume, où l'expérience mystique aussi était d'un autre genre.
Tout dans la tête, sourit Hubertin.
Ou dans les yeux. Dieu sentit comme lumière, dans les rayons du soleil, dans les images des miroirs, dans la distribution des couleurs sur les parties de la matière ordonnée, dans les reflets du jour sur les feuilles mouillées. N'est-il pas, cet amour, plus près de celui de François, quand il loue Dieu dans ses créatures, fleurs, herbes, eau, air ? Je ne crois pas que de cette qualité d'amour puisse surgir quelque embûche. Quand je n'aime guère un amour qui transfère dans l'entretien avec le Très-Haut les frissons qu'on éprouve au contact de la chair.
« Tu blasphèmes, Guillaume. Ce n'est pas la même chose. » Il y a un abîme entre l'extase du cœur aimant de Jésus crucifié et l'extase corrompue des pseudo-apôtres de Montfaucon.
Ce n'étaient pas des pseudo-apôtres. C'étaient des frères du libre-esprit, tu l'as dit toi-même.
Et quelle différence cela fait-il? Tu n'as pas tout su de ce procès. Moi-même, je n'ai pas eu l'audace de mettre aux actes certains aveux pour ne pas effleurer, ne fût-ce qu'un instant, de l'ombre du démon, l'atmosphère de sainteté que Claire avait créée en ce lieu. Mais j'ai su de ces choses, Guillaume. Ils se réunissaient nuitamment dans une cave, prenaient un enfant à peine né, se le lançaient de l'un à l'autre jusqu'à ce que mort s'en suive, à force de coups ou d'autres choses, et qui le recevait vivant pour la dernière fois, et le voyait mourir entre ses mains, devenait le chef de la secte. Le corps de l'enfant était alors déchiré et mélangé à de la farine pour en faire des hosties blasphématoires.
« Hubertin, dit Guillaume avec fermeté, ces choses ont été dites il y a des siècles par les évêques arméniens de la secte des Pauliciens et des Bogomiles.
Et puis après, le démon est obtus. Il suit un rythme dans ses embûches et dans ses séductions. Il répète ses propres rites à la distance de millénaires. Il est toujours le même, et c'est précisément pour cela qu'on le reconnaît comme l'ennemi. Je te le jure, ils allumaient des cierges la nuit de Pâques et amenaient des fillettes dans la cave. Puis, ils éteignaient les cierges et se jetaient sur elles, fussent-elles liées à eux par les liens du sang. Et si de cette étreinte naissait un enfant, recommençait le rite infernal, tous autour d'un vase plein de vin qu'ils appelaient le baricot. De s'enivrer, et ils coupaient en morceaux l'enfant et en versaient le sang dans une coupe, et ils jetaient des enfants encore vivants dans le feu, et ils mêlaient les cendres de l'enfant, son sang, et ils buvaient.
Mais tout cela, Michel Pselaud l'écrivait dans le livre sur les opérations des démons il y a 300 ans. Qui t'a raconté ces choses-là?
Eux, Bentivenga et les autres, et sous la torture.
Il n'est qu'une seule chose qui excite les animaux plus que le plaisir, et c'est la douleur. Sous l'effet de la torture, tu vis comme sous l'empire d'herbes qui donnent des visions. Tout ce que tu as entendu raconter, tout ce que tu as lu, te revient à l'esprit comme si tu étais transporté non pas vers le ciel, mais vers l'enfer. Sous la torture, tu dis non seulement ce que veut l'inquisiteur, mais aussi ce que tu imagines qui peut lui être agréable, parce qu'il s'établit un lien, certes vraiment diabolique ce lien-là, entre toi et lui. Je connais tout cela, Hubertin. J'ai fait partie moi aussi de ces groupes d'hommes qui croient produire la vérité avec le fer incandescent. Eh bien, sache-le, l'incandescence de la vérité est d'une autre flamme. Sous la torture, Bentivenga peut avoir dit les mensonges les plus absurdes parce que ce n'était plus lui qui parlait, mais sa luxure, les démons de son âme.
Sa luxure?
Oui. Il y a une luxure de la douleur comme il y a une luxure de l'adoration et même une luxure de l'humilité. S'il en fallut si peu aux anges rebelles pour changer leur ardeur d'adoration et d'humilité en orgueil et révolte ardent, que dire d'un être humain? Voilà. Maintenant, tu le sais. Ce fut cette pensée qui me saisit au cours de mes inquisitions. Et ce fut pour cela que je renonçai à cette activité. Me manqua le courage d'enquêter sur les faiblesses des méchants, car je découvris que ce sont les mêmes faiblesses que celles des saints. Hubertin avait écouté les dernières paroles de Guillaume comme s'il ne comprenait pas ce qu'il lui disait. À l'expression de son visage, de plus en plus empreint d'une affectueuse commisération, je compris qu'il considérait Guillaume comme en proie à des sentiments fort coupables, qu'il lui pardonnait parce qu'il l'aimait beaucoup. Il l'interrompit et dit d'un ton plein d'amertume.
« Peu importe. Si tu avais cette impression, tu as bien fait de t'arrêter. Il faut combattre les tentations. Pourtant, ton appui me manqua, et nous aurions pu mettre en déroute cette troupe de malheurs. En revanche, tu sais ce qui arriva. Je fus moi-même accusé d'être trop accommodant avec eux, et je fus soupçonné d'hérésie. Tu as été trop faible, toi aussi, dans le combat contre le mal. Le mal, Guillaume, n'aura-t-elle jamais de cesse cette condamnation, cette ombre, cette boue qui nous empêche de toucher à la source ?
Il s'approcha davantage encore de Guillaume, comme s'il craignait que quelqu'un ne l'entendît.
« Même ici, même entre ces murs consacrés à la prière, le sais-tu ? »
« Je le sais, l'abbé m'a parlé, il m'a même demandé de l'aider à faire toute la lumière. »
« Et alors, espionne, fouille, observe avec un œil de lynx dans deux directions, la luxure et l'orgueil. »«
La luxure ? » ?»«
Oui, la luxure. Il y avait quelque chose de féminin et donc de diabolique dans ce jeune homme qui est mort. Il avait des yeux de fille qui cherche commerce avec un incube. Mais, je t'ai dit, l'orgueil aussi, l'orgueil de l'esprit, dans ce monastère consacré à l'orgueil de la parole, à l'illusion de la science.
Si tu sais quelque chose, aide-moi.
Je ne sais rien. Il n'y a rien que moi, je sache. Certaines choses se sentent avec le cœur. Mais allons, pourquoi devons-nous parler de ces tristesses et effrayer notre jeune ami ?
Il me regarda de ses yeux bleus, en effleurant ma joue de ses doigts longs et blancs, et il s'en fallut de peu que d'instinct je n'eusse un mouvement de recul. Je me retins et fis bien, car je l'aurais offensé, et son intention était pure.
Parle-moi plutôt de toi, dit-il en se tournant de nouveau vers Guillaume. Qu'as-tu fait depuis lors? Voilà déjà passé 18 ans. Je suis revenu dans mes terres. J'ai encore étudié à Oxford, j'ai étudié la nature. La nature est bonne parce qu'elle est fille de Dieu, dit Hubertin.
Et Dieu doit être bon s'il a engendré la nature, sourit Guillaume. J'ai étudié, j'ai rencontré des amis d'une grande sagesse. Puis j'ai connu Marsile, ses idées sur l'Empire, sur le peuple, sur une nouvelle loi pour les règnes de la terre, m'ont attiré, et j'ai fini ainsi dans ce groupe de nos frères qui conseillent l'empereur. Mais ces choses, tu les sais, je t'avais écrit. J'ai exulté quand à Bobbio, on m'a dit que tu étais ici. Nous te croyions perdu, mais maintenant que tu es avec nous, tu pourras nous être grandement utile dans quelques jours quand arrivera Michel. La discussion sera rude.
Je n'aurai guère plus à dire que ce que j'ai dit il y a 5 ans en Avignon. Qui viendra avec Michel?
Certains qui furent au chapitre de Pérouse. Arnaud d'Aquitaine, Hugues de Newcastle.
Qui?
Demanda Hubertin. Hugues de Novocastrum. Excuse-moi, j'utilise ma langue même quand je parle en bon latin. Et puis Guillaume Alnwick. Et du côté des franciscains avignonnais, nous pourrons compter sur Jérôme, l'idiot de Caffa, et peut-être viendront Béranger, Talony et Bonagradia de Bergame.
Espérons en Dieu, dit Hubertin. Ces derniers ne voudront pas se mettre trop à dos le pape. Et qui y aura-t-il pour soutenir les positions de la curie, je veux dire, parmi les durs de cœur?
D'après les lettres qui me sont parvenues, il y aura, j'imagine, Laurent de Coalcone.
Un homme rusé.
Jean Danneau.
Celui-ci est subtil en théologie, garde-t'en.
Nous en garderons. Et enfin, Jean de Beaune.
Il aura affaire à Béranger Talony.
Oui, je crois vraiment que nous nous amuserons beaucoup, dit mon maître d'excellente humeur. Hubertin le regarda avec un sourire incertain.
Je ne comprends jamais quand vous, Anglais, vous parlez sérieusement. Il n'y a rien d'amusant dans une question aussi grave. Il en va de la survivance de l'ordre qui est le tien et qui, au profond de mon cœur, est encore le mien. Mais moi, j'adjurerai Michel de ne pas aller en Avignon. Jean le veut, le cherche, l'invite avec trop d'insistance. Méfiez-vous de ce vieux Français. Ô Seigneur, dans quelle main est tombée ton Église?
Il tourna la tête vers l'autel.
Transformée en prostituée, amolie dans le luxe, elle se vautre dans la luxure comme une couleuvre en chaleur. De la pureté nue de l'étable de Bethléem, bois comme fut bois le lignum vitae de la croix, au bacchanal d'or et de pierre. Regarde, même ici. Tu as vu le portail, on n'échappe pas à l'orgueil des images. Ils sont enfin proches les jours de l'Antéchrist, et moi j'ai peur, Guillaume.
Il regarda tout autour de lui, fixant ses yeux écarquillés sur les nefs sombres, comme si l'Antéchrist devait apparaître d'un moment à l'autre, et moi, en vérité, je m'attendais à l'apercevoir.
« Ces lieutenants sont déjà ici, envoyés comme Christ envoya les apôtres de par le monde. Ils foulent aux pieds la cité de Dieu, séduisent par la ruse, l'hypocrisie et la violence. C'est alors que viendra le moment où Dieu devra envoyer ses serviteurs, Élie et Hénoc, qu'il a gardé encore en vie dans le paradis terrestre, pour qu'un jour ils confondent l'Antéchrist. Et ils viendront prophétiser, vêtus de toile, et ils prêcheront la pénitence par l'exemple et par la parole. »
Ils sont déjà arrivés, Hubertin, dit Guillaume en montrant sa coule de franciscain.
Mais ils n'ont pas encore vaincu. C'est le moment où l'Antéchrist, plein de fureur, ordonnera de tuer Hénoc et Élie et leurs corps, pour que chacun puisse les voir et tremble de vouloir les imiter, comme il voulait me tuer, moi.
Alors, en cet instant, terrifié, je pensais qu'Hubertin était en proie à une sorte de divine manie, et j'étais plein d'appréhension pour sa raison. Maintenant, avec le recul du temps, sachant ce que je sais, c'est-à-dire qu'il fut, quelques années plus tard, mystérieusement tué dans une ville allemande, et on ne sut jamais par qui, je suis encore plus terrifié car, d'évidence, en cette lointaine soirée, Hubertin prophétisait.
Tu le sais, l'abbé Joachim avait dit la vérité. Nous sommes arrivés au sixième soir de l'histoire humaine où apparaîtront deux antéchrists, l'antéchrist mystique et l'antéchrist proprement dit, ce qui arrive à présent dans la sixième époque après qu'est apparu François pour configurer dans sa chair même les cinq plaies de Jésus crucifié. Boniface fut l'antéchrist mystique et l'abdication de Célestin ne fut pas valable. Boniface fut la bête qui vient de la mer et dont les sept têtes représentent les offenses aux péchés capitaux et les dix cornes les offenses aux commandements. Et les cardinaux qui l'entouraient étaient les locustes dont le corps est Apollyon. Mais le nombre de la bête, si tu lis son nom en lettres grecques, est Benedicti.
Il me fixa pour voir si j'avais compris et leva un doigt en m'avertissant.
Benoît XI fut l'antéchrist proprement dit, la bête qui monte de la terre. Dieu a permis qu'un tel monstre de vice et d'iniquité gouvernât son Église pour que les vertus de son successeur resplendissent de gloire.
Mais, Père Saint, objectai-je avec un filet de voix, en prenant mon courage à deux mains, son successeur est Jean. Hubertin se posa une main sur le front, comme pour effacer un rêve agaçant. Il respirait avec peine, il était là.
Eh oui, les calculs étaient faux. Nous sommes encore dans l'attente du pape angélique. Cependant sont apparus François et Dominique.
Il leva les yeux au ciel et dit comme une prière, mais je fus sûr qu'il récitait une page de son grand livre sur l'arbre de la vie.
« Quorum primus seraphico calculo purgatus et ardore calico inflammatus totum incendere videbatur. Secundus vero verbo predicationis fecundus super mundi tenebras clarius radiavit. » Oui. Si ce sont là les promesses, le pape angélique devra encore venir.
Et ainsi soit-il, Hubertin, dit Guillaume. En attendant, moi, je suis ici pour empêcher que soit chassé l'empereur humain. Ton pape angélique, Fra Dolcino, en parlait lui aussi.
Ne prononce plus le nom de ce serpent !
Hurla Hubertin. Et pour la première fois, je le vis se transformer, d'affligé qu'il était, en être courroucé.
Il a souillé la parole de Joachim de Calabre et en a fait levain de mort et d'ordure. Messager de l'Antéchrist, s'il en fut. Mais toi, Guillaume, tu parles ainsi car en vérité, tu ne crois pas en l'avènement de l'Antéchrist et tes maîtres d'Oxford t'ont appris à idolâtrer la raison en tarissant les sources prophétiques de ton cœur.
Erreur, Hubertin, répondit avec grand sérieux Guillaume. Tu sais que d'entre mes maîtres, je vénère plus que tout autre Roger Bacon.
Qui extravaguait avec ses machines volantes,
railla amèrement Hubertin. Qui a parlé clairement, avec transparence, de l'Antéchrist, en a avisé les signes dans la corruption du monde et dans l'affaiblissement de la sapience. Mais il a enseigné qu'il n'est qu'une seule façon pour nous préparer à sa venue. Étudier les secrets de la nature, se servir du savoir pour améliorer le genre humain. Tu peux te préparer à combattre l'Antéchrist en étudiant la vertu curative des herbes, la nature des pierres, et jusqu'en projetant les machines volantes dont tu te ris.
L'Antéchrist de ton Bacon était prétexte à cultiver l'orgueil de la raison.
Saint prétexte.
Rien de ce qui est prétextueux n'est saint, Guillaume. Tu sais que je t'aime. Tu sais que je compte beaucoup sur toi. Châtie ton intelligence. Apprends à pleurer sur les plaies du Seigneur. Jette tes livres.
Je ne conserverai que le tien, sourit Guillaume. Hubertin sourit lui aussi et le menaça du doigt.
Sot d'anglais. Et ne ris pas trop de tes semblables. Mieux, ceux que tu ne peux pas aimer, crains-les. Garde-toi de l'abbaye. Cet endroit ne me plaît guère.
Justement, je veux davantage le connaître, dit Guillaume en prenant congé. Allons, Atzo.
Moi, je te dis qu'il n'est pas bon, et toi, tu dis que tu veux le connaître.
Ah ! Dit Hubertin en secouant la tête. À propos, dit encore Guillaume, arrivé au milieu de la nef, quel est ce moine qui a l'air d'un animal et parle la langue de Babel ?
Salvator !
Hubertin se retourna, qui s'était déjà agenouillé.
Je crois en avoir fait don moi-même à cette abbaye, avec le célérier. Quand j'ai quitté le froc franciscain, je suis revenu pendant un certain temps dans mon vieux couvent à Casale, et là, je trouvais d'autres frères aux abois, parce que la communauté les accusait d'être des spirituels de ma secte, c'est leur expression. Je me prodiguais en leur faveur, obtenant qu'ils puissent suivre mon exemple, et deux d'entre eux, Salvator et Remigio, je les ai justement trouvés ici, à mon arrivée l'année dernière. Salvator, il a vraiment l'air d'une bête, mais il est serviable.
Guillaume hésita un instant. Je l'ai entendu dire « penitentia guite ». Hubertin se tut. Il agita une main comme pour chasser une pensée importune.
« Non, je ne crois pas. Tu sais bien comment sont ces frères laids, gens de la campagne, qui ont sans doute entendu quelques prédicateurs errants et ne savent pas ce qu'ils disent. J'aurais bien d'autres choses à reprocher à Salvator. C'est une bête gloutonne et luxurieuse. Mais rien, rien contre l'orthodoxie. Non, l'abbaye est atteinte d'un autre mal. Cherche-le chez qui sait trop, pas chez qui ne sait rien. » Ne bâtis pas un château de soupçons sur un mot.
Je ne le ferai jamais, répondit Guillaume. J'ai cessé d'être inquisiteur justement pour ne pas faire de ces constructions. Cependant, il me plaît de me mettre à l'écoute des mots aussi, et puis d'y penser.
Tu penses trop. Jeune homme, dit-il en s'adressant à moi, ne puise pas trop de mauvais exemples chez ton maître. L'unique chose à quoi on doit penser, et je m'en rends compte sur la fin de ma vie, c'est à la mort. Mors est quies viatoris, finis est omnis laboris. Laissez-moi prier.